Frère Branham. Inclinons la tête. Notre Père céleste, nous te remercions pour ce cantique. Crois seulement. Voyez simplement comme notre Seigneur est venu vers le garçon qui souffrait d'épilepsie. Il a dit, je peux si tu crois, car tout est possible à ceux qui croient. Seigneur, aide notre incrédulité ce soir. C'est là notre prière. Nous te sommes très reconnaissants pour ta présence avec nous. Et pour les personnes qui croient en toi et qui t'aiment, et de savoir que nous sommes, et pas nous serons, mais maintenant nous sommes élevés dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Assis avec notre roi ce soir, déjà assis à notre position avec lui. Oh, comme nous te remercions de cette confiance que nous avons en lui, ces promesses, sachant qu'elles ne peuvent jamais échouer et qu'elles sont toujours vraies. Nous prions que tu puisses nous visiter ce soir, puisse le Saint-Esprit prendre la parole de Dieu et la répartir dans nos cœurs selon nos besoins. Afin que lorsque nous partirons chez nous ce soir, nous puissions dire comme ceux qui venaient d'Emmaüs ce soir. Un soir, nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous alors qu'ils nous parlaient au nom en chemin? Car nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Vous vous asseoir. Je suis très heureux d'être de retour ce soir pour vous parler, fraterniser avec vous sur les choses qui appartiennent à Christ. Il n'y a aucun autre but pour lequel nous sommes ici, mais que de faire cela, de fraterniser simplement autour de la parole. Je suis désolé de vous avoir gardé si tard. Tout le soir, quelqu'un m'a dit, les gens ici rentrent à la maison après l'église à 8h30 ou 9h. Mais je ne suis qu'un sudiste d'un style lent, vous savez, je ne peux pas penser à ces choses si rapidement. Je dois juste prendre mon temps avec ça. Je suis certainement reconnaissant pour la belle coopération que je reçois de vous, les gens qui croient en Dieu. En plus, votre belle coopération rend cela si facile pour le Saint-Esprit de se mouvoir parmi les gens. J'aimerais pouvoir trouver ça partout, vraiment. Un lieu où vous pourriez trouver les gens qui croient. Peu importe ce que Dieu fait, à quel point il représente les gens, il faut y croire, vous voyez? Car cela demeure sans effet, à moins d'y croire. Jésus, une fois arrivé d'un pays, est venu dans son propre pays et ils ont dit, nous avons entendu que tu as fait telle et telle chose, Maïr. Et là, il ne pouvait pas faire beaucoup d'œuvres pour ça maintenant. Nous n'aimons pas les dire de cette façon, mais c'est ce que dit l'Écriture. Il ne pouvait pas faire beaucoup d'œuvres puissantes à cause de leur incrédulité. Le pouvoir de Dieu est limité par votre foi en lui. Ouais, c'est la seule chose, la seule limite qu'il y a. Et tout est possible à ceux qui croient. Ouais, il y a un grand Dieu dans le ciel. Et si nous pouvons seulement entrer en contact comme une ligne directe avec lui, tout est possible. Mais nous devons entrer en contact avec lui, sans aucune statique, juste un canal clair entre nous et Dieu. Puis il disait, si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là, et que tu ne doutes point dans ton cœur, alors, mais que tu crois ce que tu as dit. Maintenant, vous ne pouvez pas bluffer à ceci. Satan, on ne le bluffe pas si facilement. Alors, vous ne pouvez pas le bluffer. Mais quand vous le savez vraiment, alors ça doit se produire, voyez cela. Ça doit se produire. Nous sommes ici, donc ici, nous l'adorons. Il est aimable et il est plus beau que 10 000 à notre âme. Et maintenant, vous qui aimez lire la parole ou noter les passages, je pensais que ce soir que j'ai tellement prêché sur la guérison, je pourrais en quelque sorte changer de sujet. pas exactement comme de changer, mais juste le, la façon de le faire. Parce que vous ne pouvez pas changer un seul mot dans la Bible quand cela coïncide avec les autres mots sur le sujet. Toutes les Écritures sont simplement liées en elles. Pardonnez-moi si cela semble être sacrilège. Ce n'est certainement pas ce que je veux dire, mais c'est comme un casse-tête là. Nous avions l'habitude d'acheter des vieux casse-têtes en plusieurs places. Puis on restait assis et on examinait comment les mettre ensemble. Nous devions placer l'image sur le côté, l'image de pièces que nous essayons de placer ensemble. Pour. Si vous ne procédez pas ainsi, vous n'arriverez jamais à le terminer. Maintenant, c'est comme ça que les Écritures. C'est découpé comme ça pour être caché aux sages et aux intelligents. Et Jésus a loué Dieu de l'avoir caché à leurs yeux et de l'avoir révélé aux petits-enfants qui peuvent apprendre. Maintenant, si vous voulez, par exemple, déposer le patron sur le côté et voir quelle écriture concorde, déposez simplement Jésus sur le côté, observez-le et comment cela a été présenté. Vous verrez que tout va bien s'aligner. Le Nouveau Testament, l'Ancien Testament, le deux parlent de tous de Jésus. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, car il est le livre de la rédemption. Il est la parole, il était la parole. Et cela ne peut pas être que lui. C'est donc tout le livre de la rédemption qui est Jésus-Christ, mis ensemble à la perfection de Dieu, avec les promesses de rédemption et de guérison. Ce livre est Jésus-Christ ensemble par Dieu, vous voyez? Il est venu en tant qu'être humain et nous a rachetés, et chaque promesse est en lui et nous appartient, car il est le Rédempteur. Prenons dans l'Ancien Testament ce soir, afin d'obtenir le contexte que nous désirons donner à notre sujet, alors que nous le lisons, le sixième chapitre du livre du prophète Ésaïe. J'aime les écrits d'Ésaïe. C'était un grand prophète. Savez-vous qu'Ésaïe a écrit la Bible en entier comme un genre de prélude à cela? Il a fait, Ésaïe a débuté par la création, puis au milieu du livre est arrivé à Jean-Baptiste. Il y a 66 livres dans la Bible, 66 chapitres dans ceux d'Ésaïe. Maintenant, lisons le sixième chapitre. L'année de la mort d'Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône haut, très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun six ailes, deux dont ils se couvraient la face, deux dont ils se couvraient les pieds, et deux dont ils se servaient pour voler. Et ils criaient l'un à l'autre et disaient: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Et les portes furent ébranlées par la voix de celui qui criait, et la maison était remplie de fumée. Alors j'ai dit: Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Alors l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Et il en toucha ma bouche et dit: Voici, cela a touché tes lèvres, et ton iniquité est expiée, et tes péchés sont pardonnés. Aussi j'entendis la voix de Dieu, la voix du Seigneur disant: Qui enverrai-je, et qui doit, ou qui ira pour nous? Alors j'ai répondu: Mais voici, envoie-moi. Je souhaite prendre un texte, si on peut l'appeler ainsi, au sujet de l'influence. L'influence est une grande chose. On dit que dans les Écritures que nous sommes des épîtres écrites et lues de tous les hommes. Et nous, en tant que chrétiens, nous devions toujours suivre ce que nous faisons et ce que nous disons et être vraiment honnête envers chacun, chaque homme. Et vous ne pouvez pas être honnête avec votre prochain, vous ne serez certainement, si vous ne pouvez pas être honnête avec vous, vous ne serez pas avec Dieu. Mais si la manière dont nous servons Dieu, c'est de la manière que nous servons les uns les autres. Ainsi, aussi honnête que je serai avec vous, c'est aussi honnête que je serai avec Dieu. Nous devons être honnêtes. Et quelqu'un vous observe. Vous ne le pensez peut-être pas, mais il y a des yeux qui vous surveillent. Et votre vie influence quelqu'un. C'est peut-être un petit enfant, et cet enfant peut devenir un autre, fini, maudit, ainsi de suite. Nous ne le savons pas, mais votre vie influence quelqu'un. Et notre décor de ce soir est un assez grand décor sur le sujet, parce qu'en lisant cet après-midi, alors que j'étudiais, je pensais à quel point Dieu était grand. Ce matin, quand mon fils et moi marchions un peu autour du pâté de la maison, il y avait tellement de monde. Nous sommes descendus autour de Times Square, car ils ont dit qu'ils allaient le démolir. Je pensais que le travail a déjà commencé. Donc, j'ai regardé ça et nous prenions quelques photos. Et les gens, quel fou! J'ai dit à mon fils, où vont-ils? Qu'est-ce qui presse autant? Les voici plus bas, en train de courir, voici, en train de courir. Et comme nous étions debout, nous avons pensé encore, comment Dieu peut-il connaître les pensées de chaque personne? Et comment se fait-il que tous les gens, les milliards de peuples qui peuplent la terre, Dieu sait à chaque fois que vous, quand vous clignez les yeux, il est infini. Si vous désirez simplement savoir juste pour se contenter, si jamais cela vous venait à l'esprit, sortez, regardez les étoiles et demandez-vous comment il contrôle toutes ces choses alors que vous réalisez combien la tâche qui lui serait petite. Avec ces étoiles, vous pouvez voir à 120 millions d'années-lumière. Mais au-delà de ça, pensez à quel point il est grand et comment il tient la Terre. Cette Terre, si l'une de ses étoiles s'est déplacée des millions et des milliards de kilomètres plus loin, cela affecterait la Terre. Tout le système solaire doit rester à sa position. Et voyez, tout ce que Dieu a fait comme ça obéit à Dieu. Mais quand Dieu a créé l'homme, mais il semble que l'homme ait voulu connaître plus que Dieu. Vous voyez, c'est que nous sommes le seul en dehors de notre position. Les étoiles restent en position. Elles doivent rester à leur position pour se coordonner les uns. Par exemple, la Lune. Si la Lune sortait de son orbite, la Terre se remplirait d'eau en quelques instants. Il a fixé ses limites quelques peu. Et quand la Lune s'éloigne de la Terre, voici les marées. Si la Lune ne s'approchait pas de l'autre côté, les eaux couvriraient la Terre. Et la mer s'arrête et revient à sa position car elle voit le mouvement et parfois. Car elle voit le mouvement parfait de Jéhovah. Oh, si nous, dans l'Église, en tant que membres du corps du Christ, pouvions-nous simplement travailler en harmonie comme ça, vous verrez une grande et puissante Église du Dieu vivant, formant un seul tableau et rempli du Saint-Esprit. Ne serait-ce pas merveilleux? Chaque membre du corps exerce exactement sa position. Chaque don a sa position, chaque don est dans l'autre. Chaque membre est dans l'autre, ce serait merveilleux. C'est ce que nous voulons voir. Mais nous le verrons un jour, ce sera un ordre. Or, ce jeune homme, Ozias, était le roi, mais avant qu'il devienne roi, il était roi sous le règne d'Ésaïe le prophète. Et il était un jeune berger. Il aimait le plein air. Il a eu une grande influence sur la vie d'Ésaïe. Ésaïe était aussi un jeune homme, aussi le terme jeune prophète. Et lisez l'histoire. Si vous voulez prendre 2 Chroniques 26, c'est expliqué. Comme à l'âge de 16 ans, après la mort de son père qui était intègre, il est devenu, ils l'ont nommé roi d'Israël à l'âge de 16 ans. Il avait eu l'influence de ses parents. Sa mère était une femme pieuse et son père était un homme pieux devant lui. Et c'est de cette façon-là que l'enfant a été influencé à faire ce qui était juste. Je vous l'ai dit, je pense qu'aujourd'hui, nous avons une vague de criminalité juvénile à travers le pays. Mais en réalité, je pense que ça a commencé à la maison. Je pense que les parents ont commencé à se laisser aller. Et si l'enfant avait été élevé dans une bonne maison à l'ancienne, une maison plus. Je ne dis pas que ce serait révolu, certainement pas, mais cela donnerait certainement à cet enfant la bonne sorte d'influence. Je pense souvent que les foyers qui ont mal élevé les enfants se retrouvent dans la rue et vivent égoïstement alors que la maman reste à la taverne, et le père, tout. Ils ne prennent pas soin de cet enfant. Une autre chose, ils ne l'aiment pas et ne lui donnent l'affection dont il a besoin. C'est lorsqu'ils sont jeunes que vous devez leur apprendre à aimer, à respecter, à lire la Bible. Je pense à Susan Wesley. Je pense qu'elle avait 17 ans. Je pense que c'est juste. Mais elle trouvait 2 heures ou plus chaque jour pour prier, au pied des arbres où les petits garçons s'agenouillent. Cela a produit un John et un Charles qui ont changé le cours du monde et a sauvé le monde en ces jours. Elle n'avait pas de machine à laver ni de sécheuse, comme c'est le cas aujourd'hui, ni de lave-vaisselle, ainsi de suite. Une fois, elle faisait tout elle-même et pourtant elle arrivait à trouver du temps pour qu'elle ait. Parce qu'elle a influencé quelques enfants qui ont finalement changé le cours du monde. Je pense que c'est la mère à l'ancienne, la maison à l'ancienne, où se trouvait la prière et la compréhension de la Bible. Je crois qu'Abraham Lincoln n'a jamais possédé les livres de sa vie jusqu'à ce qu'il soit majeur. Je pense que c'était le livre de Martyrs de Fox. C'est peut-être un livre. Je pense que c'était le livre de Voyage du Pèlerin. C'est le Voyage du Pèlerin. Vous voyez quel genre de personnage c'est là à modéler? Laissez-moi aller chez vous et voir quel genre de photo vous avez sur votre mur. Laissez-moi aller chez vous ou à votre bureau. Laissez-moi vous entendre quel genre de musique. Ce que vous lisez, ce que vous regardez, je peux très bien vous dire ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Parce que ça se nourrit de ça. Voyez? Et dans une maison, si nous rendions notre maison plus agréable, les enfants ne voudraient pas s'enfuir. Rendre les choses plus agréables pour eux, où ils se sentent les bienvenus, gentils et confortables à la maison. Et là, à la maison, il leur tarde d'arriver tard. C'est comme ça que la maison devait être. Je pense que c'est le genre de maison dans lequel Ozias a dû être élevé. Et dès qu'il est devenu roi, il a ignoré toutes les opinions populaires et toutes les différences politiques. Il n'a pensé qu'à une chose, il servirait Dieu, peu importe. Nous avons besoin de plus de politiciens comme ça. Lui, il était déterminé à servir Dieu, parce que c'est comme ça qu'il avait été élevé. Et son père lui avait donné la bonne influence, afin qu'il puisse servir Dieu et vivre. Et son royaume était si grand que je crois qu'il était à côté du royaume de Salomon. Je crois qu'il est écrit qu'il était à côté du royaume. Et c'était une grande influence sur ce jeune homme, sur ce jeune prophète. Et comme il était vu, et comment Dieu bénissait un homme qui avait pris une bonne position, fait la bonne chose juste et qui avait le bon motif et le bon objectif, qui avait bien fait. Parfois, vous pouvez penser que cela ne rapporte pas, mais cela doit rapporter. Vous ne pouvez pas aller à l'est et à l'ouest en même temps. Vous ne pouvez pas aller à droite et à gauche en même temps. Vous pensez peut-être que vous allez dans l'autre sens, mais vous ne le faites pas. Donc, si vous concentrez votre esprit, vos yeux, vos motifs, vos objectifs dans la vie sur la bonne chose, vous devez parvenir à la chose juste. Vous ne pouvez pas échouer, voyez? C'est la façon dont vous faites ce qui est juste. Vous savez ce que vous faites bien. Vous sentez mieux. Et tout ce qu'il y a à faire, vous allez bien vous en tirer. Vous commencez à aller vers l'ouest. Vous n'allez pas aller au nord. Vous n'allez pas aller à l'ouest. C'est la même chose. Et Esaïe a vu cela. Et il a vu que Dieu l'a béni. Et toutes les nations autour de lui, sa renommée s'était répandue en Chine. Et comment les nations ne voulaient pas aller en guerre avec lui. Et ils ont vu que Dieu était avec lui. Alors, il lui a envoyé des offrandes de paix, des troupeaux, des moutons, des choses. Et lui, c'était un homme bon. Je crois que si une nation, un peuple, une église ou un individu, peu importe combien les critiques vous critiquent, faites juste la chose bonne. Ils ont un respect pour vous, tout au fond de leur cœur. Et j'ai trouvé que c'était la vérité. Voyez? Soyez honnêtes et droits. Les gens respecteront cela. Et même s'ils ont tort, ils respectent toujours ça. Vous voyez? Parce que que peut-être l'être humain, nous sommes tous humains. Et nous savons qu'il y a le bien et le mal. Et Ozias s'en est tenu à cette norme. Comme je l'ai dit, il a eu une grande influence sur le prophète Esaïe. Et puis Ozias a commis cette erreur fatale, comme beaucoup d'autres personnes le font. Quand il s'est senti en sécurité et qu'il a senti qu'il avait la chose entière dans sa main, il s'est élevé dans son esprit. Il s'est élevé dans son orgueil. Maintenant, il y a ici un véritable exemple pour nous. Vous savez, je parle aux chrétiens, je vais être honnête au sujet de ces choses. Justement, c'est là où même de nombreux ministres font une erreur. Nous avons entendu tellement de fois à propos de ministres, les actes qu'ils commettent, les choses, certains d'entre eux peut-être même, les choses qu'ils ne devraient pas faire. Je pense parfois que ce sont des hommes bons, de merveilleux chrétiens qui ont été utilisés par le Seigneur. Puis finalement, ils finissent par avoir un petit royaume bâti autour d'eux et beaucoup d'influence, beaucoup de gens qui assistent à leur réunion jusqu'à ce qu'ils deviennent insouciants. Et ils se retrouvent élevés et en quelque sorte, les gens les applaudissent et s'élèvent. Et nous ne devions pas vraiment faire cela. Nous rappelons, nous ne sommes pas. Il y a des personnes importantes parmi nous. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Dieu a fait de certains. Voilà, il m'a créé avec un doigt, un œil et ainsi de suite. Bien, nous devons nous apprécier les uns les autres. Pas que nous sommes tous connectés à un seul Dieu. Parce que nous sommes tous connectés à un seul Dieu. Et là, nous constatons bien des fois, le ministre en arrive à se sentir un peu en sécurité. Il continue dans cette voie. Et la première chose, vous savez, ils feront des choses qu'ils ne devaient pas faire. Et nous savons bien qu'un homme juste aura trop d'activités sociales. Ils veulent aller dans de grandes réceptions. La première chose que vous savez, il se commande un petit verre et de temps en temps, il se mêle au monde. Je pense que c'est ce qui se passe avec nos églises aujourd'hui. Je pense que c'est ce qui se passe avec notre mouvement pentecôtiste. Maintenant, laissez-moi dire ceci pour commencer. Vous m'entendez dire des choses concernant les églises pentecôtistes. Je suis un pentecôtiste. Mais ici, qu'arrivait-il s'il n'y avait pas de pentecôtistes à New York ce soir? Où irais-je prêcher ce message? Ouais. J'apprécie les pentecôtistes. Ce sont mes frères et sœurs. Mais pourtant, quand je vois quelque chose de faux chez mon frère, mon enfant, ou ma femme, ou qui que ce soit d'autre, ce qui doit être rectifié doit l'être. Un parent correct corrige ses enfants. Je pense que le problème avec notre église, c'est que nous essayons trop de ressembler aux autres. Ouais, nous essayons d'agir comme quelqu'un d'autre, vous voyez, et nous commençons à prendre leurs habitudes. Et la première chose que vous savez, je me souviens des pentecôtistes, à l'ère de Bible, bien sûr, il y a de nombreuses années, c'était des mouvements de la rue d'Azusa. Et moi, j'ai lu les deux livres et j'ai parlé à quelques hommes. Je m'apprête à avoir une réunion immense avec l'un d'eux à Shreveport, à Louisiane. Il sera là. Et c'est le début de la Pentecôte dans ce pays, c'était à Azusa. Il y a environ 50 ans. J'ai prêché sur la jubilée d'or au temple MacPherson. Mais depuis ce temps-là, il y a tellement de petites choses qui se sont glissées dans l'Église. Parce que l'Église doit se frotter au monde chaque jour. Maintenant, je ne veux pas revenir à la dessus, à nos sœurs, voyez, à nos frères, plusieurs fois. Il y a des années, c'était faux, comme je l'ai dit, pour nos sœurs de couper leurs cheveux. C'était une affaire pentecôtiste. Je ne devais pas faire ça. Mais qu'en est-il? Mais nous allons dans les différentes parties du pays et nous trouvons nos sœurs pentecôtistes avec des coupes de cheveux hydrocéphales. Et vous pouvez leur en parler, elles utilisent du maquillage et portent des vêtements d'hommes. Et vous dites, frère Branham, vous vous en prenez aux hommes. Maintenant, attendez une minute. Laissez-moi m'en prendre aux hommes. Le frère qui laissera sa femme faire ça, il n'a pas beaucoup de pouvoir sur sa maison. Vous ne devriez pas faire ça. Nous avons côtoyé les autres. Mais il y a des petits caractères faibles s'introduit d'une manière. La Bible condamne cela. Ce n'est pas bien. Et puis on trouve autre chose auparavant, c'était le mal pour les gens de la sainteté de participer à des bioscopes ou à des films. Maintenant, c'est là, mais voyez, Esprit Satan nous a joué un tout en plaçant la télévision directement dans notre maison. Et puis là, installé sur place, mais toutes ces choses auparavant, c'était mal. Mais qu'est-ce qui se passait? Cela s'introduit de la manière si graduelle que la première chose que vous savez, vous êtes fait avoir. C'est comme ça une vie qui passe. Maintenant, vous allez vous garder cette vie éloignée de vous. Et puis vous voyez une femme comme l'épouse d'un ministre ou un ministre qui commence à faire une telle chose. Toute son église dirait, eh bien, notre pasteur le fait comme la femme du pasteur le fait. Pourquoi ne devons-nous pas le faire? Voyez, vous influencez quelqu'un. Assurez-vous de bien l'influencer vers la bonne voie et les bonnes choses. Maintenant, nous réalisons que vous êtes élevé dès lors, vous êtes sur la pente descente. Vous voyez, quand vous élevez vous-même. Et nous voyons que cet Osia, il s'est élevé parce qu'il se sentait en sécurité avec tout ce qui l'entourait. Et il avait sa nation et s'en était bien occupé. Et Dieu l'avait béni. Il avait des grandes vignons, des troupeaux, des moutons, toutes riches, des richesses. Toutes les nations étaient en paix avec lui. Donc, il s'est juste élevé jusqu'à quoi qu'il pouvait faire n'importe quoi. Il s'est élevé à un point tel qu'il a essayé de prendre la place d'un ministre. Il était entré au temple, a pris l'encensoir et s'est dirigé vers l'autel. Et comme il a fait, le prêtre l'a attrapé, lui a dit qu'il ne devait pas faire ça. Et quand il a été corrigé, au lieu d'être humble comme il aurait dû être, avant qu'il ne se lève, il aurait dit, c'est vrai, je n'ai pas le droit de faire ça. Il a envoyé l'ascenseur, il aurait mis à prêtre, ordonné au prêtre qui était à Rome, ordonné de faire ça, consacré uniquement à ce service. Je voyage pas mal avec les hommes d'affaires du plein évangile ici. Plusieurs d'entre eux sont assis ici maintenant. Je dois parler lors de leur petit déjeuner samedi matin. Je crois qu'ils ont dit qu'ils avaient déjà vendu 1700 tickets. Alors, il n'y a pas longtemps, je parlais. Ils amenaient les hommes d'affaires sur l'estrade, amenant leurs textes pour prêcher l'évangile. J'ai dit, c'est faux, c'est sûr. C'est sûr que c'est faux. C'est déjà difficile pour nous, les prédicateurs, de garder cela rigoureux. Laissez tomber l'idée de faire prêcher un homme d'affaires qui n'est pas ordonné pour le faire. Dieu, n'essayez pas de prendre la place de l'autre. Dieu vous a fait d'une certaine manière aussi rester comme ça. N'essayez pas de dissiper l'identité de l'autre. Comme ils ont dit, chaque femme ministre porte. Nous remarquons que nous avons tant de Billy Graham aujourd'hui. Hein? Vous voyez, Dieu n'a fait qu'un seul Billy Graham. C'est tout. Et vous êtes tout aussi important que Billy Graham, Oral Roberts ou n'importe lequel de ces hommes bien connus. Vous êtes tout aussi important que tant que vous ne sortez pas de votre position. Vous n'êtes qu'un bon à rien. Vous êtes un obstacle pour ces hommes. Vous êtes un obstacle pour vous-même, pour le royaume de Dieu. Restez à votre position. Restez ce que Dieu vous a fait de vous. Vous servirez contre moi. Comme Paul, ce n'est pas nouveau. Paul a enseigné la même chose. Il a dit, si la main disait l'œil parce que je ne suis pas l'œil, l'oreille dit au nez, je ne suis pas. Nous ne devons pas essayer d'imiter qui que ce soit. Soyez simplement ce que vous êtes. C'est comme ça que Dieu vous a fait. Vous ne vous êtes pas façonné. Nous ne pouvons pas faire comme Billy Graham ne peut pas prendre, et Billy Graham ne peut même pas prendre notre place. Vous voyez, chacun a quelque chose à faire. Le petit homme ordinaire ici, qui est peut-être une concierge, la petite femme qui est peut-être une ménagère, le plus grand ministre de la terre aujourd'hui ne pourrait pas prendre votre place. Dieu avait un but en vous faisant tel ou tel, tel que vous êtes. Vous voyez?
And we find out instead of when someone tells someone something scripturally, and we see that it's right, instead of
au lieu d'essayer de nous humilier, de dire simplement, eh bien, maintenant, j'avais tort, pardonne-moi. Je ne voulais pas. Au lieu de faire cela, trop de temps, des fois, nous faisons comme Ozias. Il se sentait trop important pour être repris. Voyez, c'était le roi. Et plusieurs fois, j'ai vu des ministres comme ça, qui se sentaient trop importants pour se faire dire que c'est la parole, c'est la vérité. Eh bien, les jours des miracles sont passés. Je peux vous montrer que où Dieu a ordonné des miracles, vous ne pouvez pas me dire qu'il en a enlevé. Il a ordonné les dons, vous n'avez jamais vu où il a dit qu'il les a enlevés. Ouais. Il a dit, allez par tout le monde et prêchez l'évangile à toute la création. Et combien de temps? Par tout le monde, jusqu'à ce que chaque créature l'ait entendu. Et ces signes accompagneront ceux qui ont cru. Oui, nous ne pouvons pas substituer autre chose. Prenez simplement ce qu'il a dit. Mais en tant que nous essaierons d'adopter nos propres voies, c'est cela qu'Israël a commis sa plus grave erreur. Alors que la grâce leur fournissait une colonne de feu, un ange, un sacrifice, et les a délivrés, leur avait envoyé un prophète, envoyé une colonne de feu qui les suivait, et conduisait le prophète sur le chemin quand ils ont fait Exode 19 chapitre, quand ils ont échangé la grâce pour la loi. Ils ont fait la chose la plus grave qu'ils n'avaient jamais faite. C'est comme ça que nous sommes. Nous devons avoir notre avocat. Sinon, maintenant nous voyons qu'Ozias s'est élevé et il allait le faire de toute façon. Il a saisi l'encensoir et est parti. C'est ce que disait le prêtre et ne faisait aucune différence. Il y allait de toute façon. Et c'était contre les Écritures. Ce n'était pas scripturel qu'il fasse cela. Ce n'est pas. Alors soyez ce que vous êtes, soyez un bon et remplissez votre tâche de sorte que les autres puissent vous voir. Si vous êtes une ménagère, soyez une véritable. Oui. Si vous êtes un mari, soyez un authentique voyant. Si vous êtes un diacre, soyez un authentique, un prédicateur. Mais n'essayez pas de prendre la place de quelqu'un d'autre. Et puis lorsque la parole veut vous répondre sur cela, vous sentez réprimandé, alors repentez-vous. Mais Ozias ne voulait pas faire ça. Alors qu'après que Dieu l'ait béni comme il avait fait, quand même, il ne savait pas, il ne se sentait pas qu'il devait le faire. Il pensait qu'il allait continuer le faire de toutes les façons. Mais pendant qu'il était là, ça l'a mis comme en colère contre son, et lui rapportait la parole. Et là, il s'est passé de toute façon. Nous avons vu que son visage s'est couvert de lèpre. Il fut lépreux jusqu'à sa mort. Il est mort lépreux. Après avoir vu la main de Dieu et comment Dieu avait été si bon pour lui et fait les choses qu'il avait faites, quand même cet homme est mort, isolé, lépreux. Maintenant, nous pourrions faire ça. Nous avons vu beaucoup de choses. Mais ne pensez jamais que nous soyons sûrs que Dieu ne peut pas vous juger. Ouais. Rappelez-vous, n'essayez pas d'imiter quelqu'un d'autre. Soyez simplement ce que vous êtes. Si Dieu a fait de vous un pentecôtiste, soyez un vrai. N'ayez pas honte de Dieu. Je n'ai pas honte d'être un être humain. Je n'ai pas honte d'être un Américain. Je n'ai pas honte d'être un ministre. Je n'ai pas honte de l'évangile que je prêche. Je sais que beaucoup d'entre vous pensent que j'ai perdu la tête. Mais ma bonne vieille mère qui est morte il y a quelques années, lorsque au début j'ai reçu le Saint-Esprit, personne dans notre contrée n'en connaissait quelque chose. Je n'étais qu'un petit prédicateur baptiste local âgé d'environ 20 ans. Et ma mère a dit, ce garçon a perdu la tête. Ouais. Mais peu importe ce que pensait ma mère, j'avais trouvé cette perle de grand prix. Cela pouvait lui sembler comme ça, mais pour moi c'était réel. Ça l'était. C'était la chose véritable, quelque chose que j'avais trouvé en Dieu. Parce que j'ai toujours cru en tant que garçon que ceci était la parole de Dieu et qu'elle ne pouvait jamais changer. Jésus a dit, les cieux et la terre passeront, mais mes paroles ne changeront jamais. Elle ne passera jamais. Vous ne pouvez rien y substituer. C'est simplement écrit comme ça. Et c'est comme ça que nous la croyons et nous n'ajoutons rien et n'en retranchons rien. Vous savez, dans le livre de l'Apocalypse, il est dit, quiconque rajoutera une parole et retranchera quelque chose, la malédiction sera sur lui. Alors laissez-la simplement comme elle est et croyez-la comme ça. Maintenant, il a été frappé à cause de son orgueil. Il avait le sentiment qu'il était le seul qui y avait et qu'il pouvait faire ce qu'il souhaitait sans que personne ne l'arrête. Nous avions un frère il n'y a pas longtemps pour qui je me suis senti tellement désolé. On aurait dit que tout le monde le reprenait. Ils accusaient le frère de faire quelque chose de mal, ce dont le journal l'accusait. Je me suis mis à réfléchir. J'ai vraiment pris pour lui. Je n'étais pas certainement pas d'accord avec lui. Mais l'homme qui a écrit un article et a mis cela dans un magazine, que cet homme avait dit toutes ces choses différentes et fait ces choses. Un soir, dans une réunion à Minneapolis, ils m'ont dit que l'auteur de ce magazine était là. Et l'article venait juste de paraître dans le magazine chrétien. C'était un condensé chrétien. Ils m'ont pointé l'homme, ils ont dit, c'est lui qui est assis là-bas. Et ils disaient dans cet article que cet homme avait écrit quelque chose, un livre que l'homme n'avait pas écrit, je le sais. Une dame avait écrit ce livre, je connaissais cet homme. Bon, alors j'ai dit, bien, maintenant, une chose que je voudrais dire, je ne suis peut-être pas d'accord avec le ministre, mais je pense que si le rédacteur de cette rubrique, s'il n'a jamais vérifié son script, mieux que de dire que cet homme a écrit cet article, je sais qu'il ne l'a pas fait. Et puis j'ai trouvé que je préférerais être trouvé même fois en essayant de sauver quelqu'un plutôt que d'essayer d'empêcher quelqu'un de sauver quelqu'un. Je préfère plutôt prendre la place à l'homme tout en et d'essayer de critiquer, de démolir ce que quelqu'un d'autre construit. Alors, quand cet homme a été frappé par cette lèpre, quand il a été enflé d'orgueil, ce fut une grande leçon pour ce jeune prophète. Il a découvert avec ceci que c'était pour lui une grande leçon que Dieu attribue à son homme à une position. Voyez, l'homme ne peut pas se l'attribuer lui-même. Et Dieu attribue à son homme une position. Dieu fait de vous ce que vous êtes. Voyez? Et Dieu attribue à son homme une position. Il ne doit pas essayer de prendre la position de l'autre. Ce fut une leçon pour Esaïe et qu'il ne devait pas prendre les êtres humains comme exemple. Il devait garder ses yeux sur Dieu. Car c'est nous, ça c'est nous, tout homme. Tout homme est sujet aux erreurs. Il est sujet à l'erreur parce qu'il est humain. Il est sujet aux violations de loi de Dieu. Et il est sujet à beaucoup de choses, car Satan le tente. Il n'est qu'un être humain. Et si Dieu a levé sa main, il tomberait, c'est tout. Et j'ai entendu les gens dire, « Oh, Satan ne peut pas faire ça. » Oui, que Dieu enlève juste sa main une fois. Regardez ce qui se passe. Je supplie constamment, « Oh, Dieu, ne l'envoie pas. Aie pitié de moi. Tiens-le loin de moi. » Voyez-vous, j'ai besoin de la miséricorde de Dieu. Nous en avons tous besoin. Or, nous voyons qu'Esaïe s'était appuyé solidement sur le bras du bon roi et que maintenant le bras lui avait été enlevé et le roi était mort. Mort de la lèpre. Maintenant, Esaïe, pendant ce temps, le roi ayant été enlevé, bien, son jeune fils devait prendre la place. Et nous découvrons que les gens étaient entrés dans un état horrible d'immoralité. Quand il n'y a pas de véritable conducteur, puis alors les gens commencent à s'enfoncer dans l'immoralité. Je pense que c'est ce qui se passe avec nous aujourd'hui, dans notre pays, dans nos églises. Nous avons besoin de dirigeants pieux, de quelqu'un qui donne l'exemple. Mais il a essayé, Esaïe, savoir ici qu'il ne pouvait pas s'attendre aux hommes. Esaïe, un jour, il s'est promené, il a dû devenir tout en cas, sachant qu'il avait une grande responsabilité. Il est descendu au temple pour prier. Or, c'est une bonne chose à faire pour nous tous, descendre au temple. Et nous remarquons que, comme il priait au temple tout à coup, étant un prophète, il a eu une vision et il a levé les yeux. Il a vu Dieu, le roi, assis très haut, exalté sur son trône. Et son vêtement remplissait l'endroit. Vous voyez? Alors, il a vu un exemple véritable. Il a vu quelqu'un en qui il pouvait prendre sa place, qui ne pourrait jamais être frappé de lèpre, quelqu'un qui ne pouvait jamais faillir. Un autre homme, il disait, « Oh, Esaïe, tu vois, tu as mis ton espoir dans un homme. » Et cela a échoué. Tu as mis pour cet homme. Et il a échoué maintenant. Élève les yeux sur moi et je suis le Dieu infaillible. Je pense que c'est ce que nous devions faire aujourd'hui en tant que ses serviteurs. Nous devions nous tourner vers lui. Jésus est notre exemple. Et nous devons Regardez à lui, l'auteur et le consommateur de notre foi. Maintenant, nous voyons dans cette vision qu'il a vu Dieu élevé très haut sur son trône. Puis, il a remarqué une autre chose. Notez qu'autour de lui se trouvait, dans le temple où il était, il y avait des séraphins célestes, ces séraphins célestes. Si vous voulez vérifier seulement, je pense qu'il n'est utilisé qu'une ou deux fois dans la Bible. Ce n'est pas chérubin, mais c'est une sorte qui, suit le chérubin, quelque chose comme un être angélique, mais quand même, ce n'est pas un ange. Mais c'est une personne spéciale. C'est qu'ils ont, ils sont ceux qui consument les sacrifices dans la Bible. Et les sacrifices, un chemin sur le, vers la sainteté. C'est séraphins qui consumaient les sacrifices qui étaient exigés. Ils étaient là, volant à travers le temple pendant qu'Esaïe était dans la vision. Et tout le temple s'est rempli de fumée. Et ils criaient l'un à l'autre, « Saint, 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 et le Seigneur Dieu Tout-Puissant, Saint, Saint, Saint. » En d'autres termes, il y avait quelque chose qui ne peut pas faillir. C'est notre exemple. Voici le roi à qui il peut, il faut regarder. Saint, 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 et le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et nous voyons que c'était des créatures à six ailes. Et maintenant, nous allons étudier la raison de ces six ailes. Ils avaient, nous l'avons vu, ils en avaient deux sur leur visage, deux sur leurs pieds, et volaient avec les deux autres ailes. Remarquez d'abord que ces créatures étaient au service, dans la présence de Dieu. C'était leur devoir. Ils criaient, « Saint, 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 et le Seigneur Dieu Tout-Puissant. » Et ils criaient jour et nuit, dans sa présence, comme le sacrifice était là. « Saint, 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 et le Seigneur Dieu Tout-Puissant. » Et je veux que vous remarquiez quelque chose ici et que vous réfléchissiez. Ce séraphin avait deux ailes sur leur visage. Pourquoi les mettaient-ils sur leur visage? Parce qu'ils étaient en présence de Dieu. Et ils pensaient, et si les saints anges doivent couvrir leur visage en sa présence, qu'en est-il de nous? Avoir deux ailes sur leur visage représentait le respect. Mais aujourd'hui, nous constatons qu'il n'y a plus de révérence. Vous pouvez difficilement trouver la révérence. Ils n'ont aucun respect pour Dieu. Ils se tiennent debout pour chanter que Dieu bénisse l'Amérique sur la terre. C'est horrible. Je suis allé demander un sandwich aujourd'hui dans un endroit. La petite dame s'en passait des remarques sur elle, mais je pensais qu'elle était en train de mourir. Elle avait l'air d'avoir la gangrène sous les yeux. Elle était bleue tout autour. Elle a couru seulement avec quelques vêtements. Elle a dit, « Qu'allez-vous prendre ?» J'ai dit, « M'apporteriez-vous un sandwich ou un verre de barbeur ?» Elle a dit, « Bourbon, quelque chose, une sorte. » J'ai dit, « Non, madame. » Vous m'avez mal compris. J'ai dit, buttermilk, babeur. Il a dit, vous ne pouvez pas rien prendre, vous ne voulez rien boire. J'ai dit, je veux du babeur. Il a dit, vous tous. J'ai dit, je suis ministre. Et puis il dit, bien, nos prêtres catholiques viennent ici et boivent. J'ai dit, je ne suis pas un prêtre catholique, madame. Je veux un verre de babeur. Il semblait que cela choquait la femme. Elle ne savait pas ce que c'était. Et le monde est rendu, et s'est rendu interpellé maintenant. Si un prêtre entre et boit, l'Assemblée a le droit de boire. C'est là votre exemple. Oh là là, quelle corruption nous avons. Nous avons besoin d'un ménage de la chair. Non, monsieur. Le monde est dans une telle corruption. Et s'il n'y a le cas, pas de respect. Les gens d'aujourd'hui ne respectent pas Dieu. Ils n'ont aucun égard. Ils prennent son nom en vain et racontent des blagues, cela. Et même les ministres font cela. Vous entendez une blague, je suppose, qui pourrait être bien. Je pense que le ministre devait être l'exemple de ce que. Et c'est peut-être la raison pour laquelle je pense que nous pouvons aller. Nous n'arrivons pas. Quand vous vous comportez mal, et vous perdez de petits grains de sincérité, il y a quelque chose à ce propos. Vous devez vous rappeler que Dieu vous observe à chaque heure. Il vous observe quand vous dormez. Je pense que la raison pour laquelle les gens font ces choses, c'est parce qu'ils ne sont pas conscients de sa présence. Voyez, mais comme il est là, quand vous pensez qu'il est là ou pas, il voit chaque regard que vous faites, chaque mouvement que vous faites. Il sait tout cela. Mais nous devons le réaliser. Nous avions un petit chant quand je suis arrivé parmi les pentes qui disaient tout au long de la route vers la demeure véritable de l'âme, il y a un œil qui vous surveille. À chaque pas que vous faites, ce grand œil est éveillé. Il y a un œil qui vous surveille. Vous vous souvenez de ce chant? Maintenant, ça c'est vrai. L'omniprésent dit ce que vous faites et même vos pensées. Une fois alors que j'étais dans une vision, je parlais à un être debout près de moi et il a dit, tes pensées résonnent plus fort dans les cieux que ta voix sur la terre. Il sait ce que vous pensez. Vous pourriez dire que vous faites ceci, vous faites cela. Vous voyez, dans votre cœur, si vous pensez directement, vous faites quelque chose de faux. Vous devriez être exactement ce que vous faites. Vous voyez, dans le cœur, la bouche devrait dire ce qui se trouve dans le cœur. Ouais. Ainsi, nous voyons que les gens ne réalisent pas la présence de Dieu. Vous savez, il devait être comme David, l'homme qui était sur le cœur de Dieu. Il a dit, le Seigneur est toujours devant moi. Partout où il allait, il se souvenait que Dieu est toujours devant lui. Il est à ma droite et je ne chancelle pas, car Dieu est à sa droite. Révérence, nous devions nous honorer les uns les autres, nous respecter les uns les autres. En tant que frères et sœurs, nous aimer les uns les autres. D'un amour fraternel, vous dites, eh bien, je ne peux tout simplement pas. Alors, restez ici un peu plus longtemps. Vous aimerez les gens. Vous aimerez ceux qui ne vous aiment pas. C'est vraiment un bon signe de christianisme. Quand vous pouvez, du fond du cœur, aimer ceux qui ne vous aiment pas. Aimer celui qui est détestable. Jésus a dit, si vous n'aimez que ceux qui vous aiment, eh bien, les publicains font la même chose. Vous devez être bon pour ceux qui sont méchants envers vous. Faites du bien à ceux qui vous feraient du mal. Souvenez-vous toujours de ça. Gardez cela devant vous. Dieu était bon envers vous quand vous étiez méchants envers lui. Alors que vous étiez encore péché, Christ est mort pour vous. Maintenant, nous voyons que ces ailes sur leur visage étaient parce qu'ils étaient dans la présence de Dieu. Respectueux. Si un saint séraphin devait cacher son visage derrière une couverture spéciale, un qui ne connaît pas le péché, qui n'a jamais péché, mais quand même dans la présence du Dieu saint, doit cacher son saint visage dans la présence de Dieu. Qu'est-ce qu'un hypocrite va faire ce jour-là? Qu'est-ce va faire la rétrograde ce jour-là? Qu'est-ce que l'impie va faire ce jour-là? Quand vous arrivez, vous devrez lui faire face. Il n'y a qu'une seule chose, vous devez, mais il ne m'a pas donné d'elle pour couvrir mon visage. Il a versé son sang de son pour que vous puissiez en couvrir votre visage. C'est vrai, c'est la seule couverture qu'il a pour la race humaine. C'est le sang de Jésus-Christ. Puis deuxièmement, il avait des pieds couverts d'elle sous le pied et cela représentait l'humilité. Il y a un mot qui s'est perdu aujourd'hui pour trop de gens. L'humilité en sa présence. Humiliez-vous dans sa présence. J'ai vu le Saint-Esprit entrer dans la pièce et faire exactement ce que la Bible a dit qu'il ferait. Discerner. Et j'ai vu des gens s'élever et sortir. J'ai vu des gens s'asseoir et parler, rire et se moquer de cela pendant que cela s'est passé. Je me souviens des soirs où un ministre avait amené 28 membres de son assemblée, était assis, c'était à Jonesboro, à Kansas. Ils avaient un garçon épileptique qui souffrait d'épilepsie et c'était un démon. C'est un démon. C'est ce que c'est. Les médecins ne savent pas ce que cela a fait. Ce qui fait cela, c'est un démon. Ils ont mis une pince à linge avec un chiffon enroué autour. Quand il avait ses crises, il l'a poussé dans la bouche du garçon pour qu'il ne morde pas sa langue. Et ils ont amené le garçon et il était en pleine crise sur l'estrade bien. Et quand ils ont le moindre excité, ils vont en avoir une. Ainsi comme nous allions prier pour le garçon, j'ai dit que tout le monde courbe la tête en signe de respect. J'ai prié pour lui et l'esprit ne voulait pas quitter le garçon. J'ai regardé tout le monde, je viens petit groupe parce qu'il a un certain. Je dis, vous deviez vous incliner la tête et j'ai dit, vous devez obéir. Je dis, c'était la commission. Si tu amènes les gens à te croire parce que tu es sincère quand tu pries, je dis, vous deviez vous incliner la tête. Et puis j'ai dit, je ne ferai pas ça. Il y avait les gens là. Il y avait donc. J'ai regardé autour de moi ces pauvres garçons, gorge couverte, et sa mère essaie de crier et pleure comme ça. Et le garçon essaya d'avaler ainsi de suite. Et j'ai dit, Père Céleste, ne laisse pas ces garçons innocents souffrir pour ce groupe de groupe coupable. Voyez-vous, j'ai dit, c'était ta parole. J'ai été honnête, je leur ai dit, et en temps. Et tant d'épileptiques ont été guéris. Et j'ai dit, ne laissez pas ces garçons innocents souffrir. La mère et le père l'ont amené ici. J'implore la miséricorde. Puis j'ai dit, au nom du Seigneur Jésus, par la foi, par ma commission qui m'a donnée, le Dieu puissant, ce diable ne peut pas retenir ces garçons. Vous êtes libres. Si les désobéissants, vous êtes libres d'aller. Mais sors de ces garçons. J'ai vu 28 personnes avec leur pasteur tomber dans les plissis tout autour et tout autour, au sol comme ça. Pour autant que je sache, ils l'ont toujours. Mais maintenant, voyez, vous ne devez pas être irrévérencieux. Vous devez vous humilier. Combien d'entre vous ont participé à des réunions, ont vu des choses pas similaires se produire? Beaucoup, je crois que beaucoup se rappellent de cela. Une fois, ils ont amené un homme pour immobiliser, je suppose, que beaucoup d'entre vous se souviennent de ça. Ils l'ont amené au camp militaire et prenaient ses soldats pour les hypnotiser et les faire aboyer comme un chien. Et donc j'étais dans une salle, ils ont amené cet homme et j'ai senti comme dans la ligne de prière commencer, il y avait un mauvais esprit quelque part. Vous trouvez, ils pensent qu'ils... Alors je pouvais dire, c'était, mais je ne pouvais pas dire où se trouvait cet homme. Au bout d'un moment, je l'ai trouvé et je vis ce que c'est. J'ai regardé cette obscurité suspendue au-dessus de lui et je ne voulais pas le dire. Je lui ai dit, et dit, enfant Lydia, pourquoi le diable t'a-t-il mis dans votre esprit de faire ça? Parce qu'il a fait cela. Quelque chose le disait à moi. Et vous sortirons d'ici. Il est toujours paralysé. L'être après, venez à lui. J'ai dit, la seule chose que je sache, c'est la repentance. Ouais, je n'ai jamais fait cela. C'est ton irrévérence devant Dieu. Nous arrivons pas à faire ce que les gens pensent que cette idée devant Dieu n'est qu'une sorte de dérision. Une sorte de groupe qui ne savent pas, une sorte de culte ou de clan. Il y a peut-être beaucoup de... Je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Je ne peux pas dire ça. Je suis qu'un... Je ne juge pas, je ne fais que prêcher. Mais il existe un véritable Saint-Esprit, véritable puissance apostolique du Saint-Esprit. Dans les pays étrangers, les sorciers, les choses s'élèvent et des mots pour vous délier. Remarquez maintenant, le Saint-Esprit n'a jamais une fois, je l'ai vu échouer. Remarquez, ils ont couvert les ailes sur leurs pieds pour l'humilité. Nous n'aimons pas nous inclure. Nous voulons penser que nous sommes quelqu'un. Je me souviens ici, il n'y a pas longtemps, j'étais dans un petit musée. Ils avaient analysé un homme pesant 150 livres, ce qui valait son corps en produits chimiques. Je crois que c'était 85 cents. Un homme pesant 150 livres, c'est à peu près tout ce qu'il avait en lui. Pesant 185, je veux dire 85, pesant 150 livres. Des jeunes hommes se tenaient là et je me tenais. Et l'un d'eux a dit, John, vous ne valons pas beaucoup d'après tout, n'est-ce pas? Et il a répondu, je pense que nous ne sommes pas. Et je dis, eh bien, des garçons, c'est vrai, vous voyez, vous ne valez pas beaucoup en produits chimiques. Mais vous avez une âme à l'intérieur de vous. Ça vaut 1 million de monde. Mais nous voulons prendre soin. Nous sommes fiers de prendre ces 84 cents et nous les enveloppons d'un manteau de vison de $500. Vous levez les nez en l'air. Pensons que nous faisons quelque chose. Je ne veux pas le présenter. Ceci n'est pas pour présenter. Nous ne voulons pas avoir l'air des gens. Vous allez des fois dans les gens très bien, bien habillés. Je crois qu'il ne devait pas se faire. Je ne pense que c'est juste une profession. C'est juste une profession et non une possession que les gens font. Ce n'est pas l'habit, mais c'est plutôt la personne. C'est Christ qui est à l'intérieur et nous devions nous humilier. Nous découvrons maintenant que ces anges ont couvert leurs pieds ou ses pieds. C'est Séraphin. Moïse, lorsqu'il était en présence de Dieu, observez-les à côté de cette colonne de feu qui était là derrière dans ce buisson ardent duquel le Seigneur a parlé. Et tout le monde sait que la colonne de feu était Christ. Il était l'ange de l'Alliance. Moïse quitta l'Égypte et a estimé l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que celle d'Égypte. Donc c'était l'ange de l'Alliance. Et quand il est apparu dans ce buisson ardent, à côté, devant lui, et la voix a dit, enlève tes souliers, tes pieds, enlève tes souliers, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Moïse s'humilia et enleva ses souliers. Cette même colonne de feu est apparue à Paul sur la route de Damas un jour. Souvenez-vous, Jésus, quand il était sur terre, ils ont dit qu'un jour, ils ont dit dans Jean 6, il buvait de la fontaine et se réjouissait. Et il a dit, je suis cette eau qui vient de ce rocher. Je suis le pain de vie qui vient du ciel. Voyez-vous comme ça? Ils ne pouvaient pas y croire. Ils ont dit, eh bien, ici, nous savons que tu as un démon, que vous êtes fou. Ça veut dire, parce que tu n'as pas 50 ans, tu dis que tu as vu Abraham. Il a dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Oui, je suis. Maintenant, nous voyons que Jésus a dit, je viens de Dieu, je vais à Dieu. Quand cette colonne de feu a été faite chair, Dieu venant de la paternité, la filiation, et quand il entre dans cet attribut, ces trois attributs, Père, Fils et Saint-Esprit, quand Dieu s'est manifesté dans la chair, il a dit, je viens de Dieu et je vais à Dieu. Et il monta. Et Paul de Tarse, sur sa route de Damas, il fut frappé par une lumière. Et quand il l'a fait, il a levé les yeux. Et ces Juifs n'auraient jamais rien appelé Seigneur s'il n'y avait pas encore eu cette colonne de feu. Il a vu cette lumière là-bas, il a dit, Seigneur, qui es-tu? Il a dit, Saul, il est difficile pour toi de régimer contre les aiguilles. Il a dit, qui es-tu, Seigneur? Il a dit, je suis Jésus. Vous voyez, la colonne de feu encore. Et regardez Saul, s'est humilié au sol, vous voyez, dans la présence de Dieu. Humilité. Frappé à ses pieds, couché sur le dos peut-être, les yeux levés. Et cette colonne de feu se déplaça tout autour de lui. Il vit et savait, en tant que professeur sous Gamaliel, le grand professeur de cette époque-là, il savait que Dieu avait conduit son peuple sous la forme d'une colonne de feu. Et cette colonne de feu a été faite chair et habitée parmi eux et a été crucifiée par leur péché. Et je viens à Dieu et retourne à Dieu. Et il était là toujours au nom du Seigneur Jésus. Et puis nous trouvons alors, plus tard que, avant cela, Jean-Baptiste, le plus grand de tous les prophètes. Tous les prophètes ont parlé de sa venue. Jean a dit, c'est lui, il l'a présenté au monde. Et là, Jean, debout dans l'eau, quand il baptisait, il dit, il vient un temps où le sacrifice quotidien sera supprimé du temple. Et il y aura un homme comme ça. Et John était sûr qu'il allait voir le Messie. Vous voyez, John a été baptisé. Son père était un sacrificateur. Mais d'habitude, un garçon suivait dans ce jour, faisait encore le rien et l'occupation. Et en tout cas, il aurait été un sacrificateur. Mais John n'est jamais allé à l'école. Car Jean est né du ventre de sa mère, rempli du Saint-Esprit. Quand Élisabeth avait conçu et que le bébé était mort dans son ventre, quand l'ange a rendu visite à Marie, il lui a dit que sa cousine Élisabeth, qui avait dépassé l'âge de concevoir, allait aussi recevoir. Marie est allée la rencontrer. Elle s'était cachée. Elle était inquiète parce que le bébé n'avait pas bougé depuis 6 mois. C'était anormal. Et alors, elle a vu Marie arriver. Elle est sortie en courant. Elle l'a rencontrée. La serrée dans ses bras. Elle a dit, commença à parler, elle a dit, je vais, je sais qu'elle allait être mère. Elle a dit, oui, je vais être aussi mère. Oh, je suppose que vous et je vous aimez. Elle a dit, non, nous ne sommes pas encore mères. Tu as dû me dire, non, le Saint-Esprit couvert de son ombre a dit que la chose qui serait née à moi serait le Fils de Dieu et que je devais appeler son nom Jésus. Et aussitôt que ce mot Jésus a été prononcé la première fois, d'une lèvre humaine, un bébé qui n'a jamais eu de vie en lui, pourtant a reçu la vie dans le ventre de sa mère et a commencé de joie, a sauté de joie. Et si le nom de Jésus-Christ apportera la vie à un bébé mort, que doit-il faire à une église née de nouveau qui prétend être remplie du Saint-Esprit? Maintenant, quel genre de garçon devait-il être? Il devait annoncer le Messie à venir. Malachie 3 a dit qu'il le ferait. Voici, j'envoie mon messager devant ma face. Et maintenant, il s'était descendu au séminaire, certains de ces ministres là-bas. On dit, maintenant, John, vous devez annoncer le Messie. Pourquoi? Vous savez, oncle Joe ici, ou Jim, certains de, vous savez qu'il a toutes les qualités. C'est lui que Dieu, ouais, il aurait été influencé par l'homme. Il est allé dans le désert, il est resté avec Dieu. C'est le meilleur séminaire que je puisse connaître. Parce que son travail était trop important pour que certains hommes puissent lui dire et l'amener dans les grandes affaires sociales. Et Jean savait lorsqu'il est sort pour prêcher le Messie, était sur terre, alors sur terre. Aussi sûr que les hommes sages le savaient, quand ils baissèrent les yeux à partir du Babylone et qu'ils virent trois étoiles alignées, c'était le signe que le Messie était sur terre. C'est la raison pour laquelle ils criaient, « Où est-il le roi des Juifs ?» L'Église n'avait pas de réponse. Ils ne l'ont pas aujourd'hui, c'est la Bible qui l'a, c'est la parole de Dieu qui l'a. C'est vrai. En tout cas, nous devons que Jean a dû annoncer le Messie. Et il ne connaîtrait que ce Messie par un signe. C'est comme ça qu'il connaissait le Messie. C'est la seule façon dont Dieu a se fait connaître, par un signe scripturaire. Et il l'observait, il s'est tenu là-bas. Et il a dit, êtes-vous le Messie? Il a dit, non, je ne suis même pas digne de toucher ce soulier. Il a dit, mais il y a un debout parmi vous. Oh là là, ne pensez pas que je suis excité. Je sais où je suis, non mais ça fait du bien quand je pense à ça. Vous voyez, il y a un parmi vous. Et je l'ai dit ce soir, il y a un parmi vous. Le grand Saint-Esprit a promis de se répandre au dernier jour. Je vois son signe constamment. Je sais qu'il est le Messie parce qu'il est toujours le signe du Messie. Fait toujours le signe du Messie. Et là, il s'est tenu parmi eux. Il a dit, il y a un parmi vous. Je ne suis pas digne de toucher ce soulier, de délier ce soulier. Il est celui qui baptisera avec le Saint-Esprit et le feu. Un jour venant du milieu de 20 hommes ordinaires qui sortit, leva les yeux et les yeux sortit et dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et quand il le fit, il a vu, il a dit, je le connaissais parce qu'il avait un signe. Il y avait un signe qui le suivait. Et regardez ici. Il y a deux plus grands hommes sur terre, debout face à face. Je me souviens du docteur Roy Davis qui m'a ordonné dans l'église missionnaire baptiste. Il a dit, tu sais ce qui arrive à la Bible? Il a dit, ce qui arrive là. Quand Jean a dit, j'ai besoin de te baptiser de toi et pourquoi viens-tu à moi? Observez l'humilité de Jean. Il a dit, j'ai besoin d'être baptisé par toi, pourquoi viens-tu à moi? Il avait là le Messie et son prophète. Les notes du jour, les notes de la Bible. Debout là. Les regardant l'autre, Jean dans l'humilité, a dit, j'ai besoin d'être baptisé par toi. Pourquoi viens-tu à moi? Jésus a dit, souffre que cela soit ainsi, car ainsi il est convenu, car il est ainsi convenu que nous accomplissons toute justice. Je me souviens du docteur Davis, il pourrait être assis ici. Docteur, il a dit, Jean, premièrement, Jésus a baptisé Jean parce que Jean n'avait pas été baptisé. Et puis alors, Jean a baptisé Jésus. Ça n'a jamais sonné juste pour moi. Alors un jour, alors que le Saint-Esprit était proche, étant dans une vision, j'ai vu ce que c'était. Il y avait Jean et Jésus s'étenant face à face. Le prophète à qui la parole est venue. Et la parole était venue au prophète. Amen. Et il a dit, laisse faire cela, c'était juste. Laisse faire. Il est convenable que nous accomplissions toute justice. Le prophète savait que c'était l'agneau et que l'agneau devait être lavé avant d'être présenté. Alors, il a dit, voyez-vous cela? Le prophète était à la parole et il était venu à lui. Il ne sait pas en langue, dans une autre langue. Un frère donne une interprétation. Amen. Jean, le prophète, la parole vient à son prophète. Et la parole vient exactement au prophète. Il est convenable. C'est ce qui signifie convenable pour que nous puissions la position de justice. Oh, comme je pourrais laisser le texte maintenant comme une minute, pendant une minute. Nous savons ce qu'il faut faire. Remarquez donc que Jean s'est humilié dans la présence de Dieu. La chose est que les gens, mon frère, ma soeur, mes amis, doivent être conscients de votre petitesse. Ne soyez pas conscients de votre grandeur. Soyez conscients de votre petit. Combien petit vous êtes. Vous êtes petit. Dieu ne peut se passer de nous, mais nous ne pouvons pas nous passer de lui. Vous voyez? Nous ne pouvons pas nous passer de lui, mais il peut se passer de lui. Dieu essaie seulement de trouver une personne qui peut prendre entre ses mains. Il a toujours essayé de faire cela. Vous remarquez, tout au long de la Bible, quand il a trouvé un Esaïe, quand il a trouvé un Samson. Mais Samson donnait sa force à Dieu, mais il a donné son cœur à Dalila. Vous devez vous donner en entier à Dieu. Votre révérence, votre respect, tout ce que vous êtes. Soyez juste rien. Soyez simplement combien petit que vous êtes. C'est ça une vraie humilité. C'est comme ça que ces séraphins sont dans sa présence. Troisièmement, ils pouvaient voler. Ils avaient deux ailes qui les mettaient en action. Dieu montre à son prophète ici quel genre de serviteur il a préparé. Respectueux, humble et en action. Ça, c'est un vrai serviteur de Dieu. Ceux qui le regardent, ils regardent Ézéchias qui s'était élevé et tomba par orgueil. Mais un serviteur, les serviteurs de Dieu, lui sont respectueux, humbles et en action. Ces serviteurs, c'est comme ça qu'ils devaient être habillés. Habillés de respect, d'humilité constamment dans les affaires du Père. Oui, monsieur, respectueux, humbles et en action. Tout comme la petite femme dont nous avons vu au puits. Elle était une petite semence prédestinée dans son cœur, mais dès que cette lumière a éclairé là-bas, qu'elle a vu que c'était le Messie, il ne lui a pas fallu longtemps pour entrer en action. Elle a même oublié les pots d'eau qu'elle avait dans sa main. C'est comme ça. Elle devait dire aux gens, elle devait le dire à quelqu'un, car elle était sûre qu'elle avait trouvé le Messie. Dans la ville, elle est allée et rapidement, elle entra en action en disant ça aux gens. C'était Pierre, quand il avait pêché toute la nuit, était assis sur la berge ce matin-là. Quand Jésus a emprunté son bateau, il avait poussé un peu plus loin du bord et qu'il prêchait au peuple. Puis il a dit, allez un peu en plein eau et jetez vos filets pour pêcher. C'était le filet. Et Simon a dit, je suis un pêcheur, je sais quand la ligne et le signe sont bons. Mais je sais quand le poisson mort. Je n'ai rien pris. Il a dit, il y a. Mais il a dit, mais à ta parole, moi, je vais jeter le filet. Je jeterai le filet. Nous ne pouvons pas comprendre ces paroles. Dieu est au-delà de toute compréhension. Vous devez le croire. On ne connaît pas Dieu par la connaissance, pas par l'instruction. Il est connu par la foi et la foi seulement. À ta parole. Je sais qu'il n'y a pas de poisson là, mais ta parole, si tu dis, j'ai ton filet, il y a du poisson, tu vas le faire, la foi le mettra là. C'est tout, je vais le jeter. Si les gens ici qui sont malades ont besoin de l'aide de Dieu, J'ai passé de chaque... Mais à ta parole, je vais jeter le filet. Je viens tout de suite, je vais le recevoir. Je crois que je suis dans sa présence. Je reconnais tout ça avec humilité, sincérité et respect. Jetez le filet, emparez-vous-en. Et Dieu l'a dit, et nous découvrons aussitôt qu'il en étant un péché, il savait que c'était que de pécher un temps de pension. Il était un pauvre homme, mais il est vite entré en action quand Jésus a dit, désormais tu pécheras les hommes. Et c'est lui a pas, et il s'est humilié, tombé devant lui, il a dit que je ne tout simplement pas. Il a dit, je suis un homme aux lèvres impures, j'habite au milieu d'un peuple pur. Dans quelles conditions? Pierre a dit la même chose, il s'est humilié et s'est prosterné. Et il a dit, ne crains pas Pierre, à partir de maintenant, tu vas pécher les hommes. Et ce ne lui a pas pris de temps longtemps pour entrer en action. Il est entré en action pour répondre à sa renommée partout. Quelqu'un venait et dit, mais qui t'a guéri? Il a dit, ils ont...
Ouais.
Et il est venu, il a dit, un homme nommé Jésus m'a guéri. Il a dit, eh bien, donne la louange à Dieu. Ils ont dit, nous ne savons rien de ce Jésus de Nazareth. Ils ont dit, c'est un pécheur. Ne lui donne aucune louange. Donne-la toute à Dieu. Eh bien, cet aveugle avait une très bonne question pour eux. Il a dit, c'est une chose étrange que vous êtes tous des chefs spirituels et que cet homme a ouvert mes yeux et que je suis né aveugle. Et pourtant, vous ne savez pas d'où il vient. Je peux dire la même chose. Le même Dieu qui a promis de venir dans son église en ce jour, ils n'ont pas eu la réponse. C'est lui qui reçoit la réponse. Il a dit, qu'il soit un pécheur ou non, je ne peux pas le dire. Mais il y a une chose que je sais. J'étais aveugle, maintenant je vois. Une fois j'étais péché, je suis sauvé par la grâce de Dieu. Je sais que quelque chose m'est arrivé. Quelque chose m'est arrivé. Vous pouvez appeler cela un sein qui roule par terre. Ou vous pouvez appeler ça comme vous voulez, mais cela m'a sauvé. Il y a une trentaine d'années. C'est de mieux en mieux tout le temps. Quelqu'un dit, tu es devenu. J'ai dit, bien, laissez-moi entendre, je suis mieux comme ça, ça. C'est que c'était qu'avant. Alors laissez-moi rester comme ça. Oui, monsieur. Il est entré en action maintenant. Oui, monsieur. Il a répondu sa renommée partout. Les gens, dès qu'ils ont vu que Dieu avait tenu sa promesse, Jésus a dit, voici, je vous envoie la promesse de mon Père sur vous. Mais attendez-vous. C'est attendez à la ville des gens jusqu'à ce que soyez. Mais, et quand ils furent remplis du Saint-Esprit, ils entraient en action tout de suite, sortant dans les rues, hurlant et dansant et agissant comme des gens ivres, parlant d'autres langues. Et quel enthousiasme! Ils entraient en action tout de suite. Aussitôt, ils se sont humiliés, sont entrés et ont fermé la porte et ont tendu pour la parole de Dieu. Ce que nous avons vu, les amis, ce que nous avons vu au cours de ces dernières années devait mettre chacun de nous en action. Premièrement, nous rendre respectueux, humble, entrer en action, avec de l'amour brûlant dans nos cœurs, essayant de notre mieux en voyant un monde perdu, en voyant le signe de Dieu, mais jusqu'au la même colonne de feu qui a été vue dans le désert, la même qui a frappé Saint-Paul, elle est la même. On en a même pris la photo juste ici, faisant la même chose qu'elle a fait là-bas, le même Messie. Et si vous mettez la vie d'une citrouille dans un pastèque, elle portera des autres truies. Si vous mettez la vie d'une vigne de raisin dans un pot, elle portera du raisin. Car c'est la vie qui est à l'intérieur. Et si c'est que nous voyons des milliers de personnes dans le monde entier, dans la science en a témoigné partout, les images sont prises, c'est ici maintenant, c'est vraiment tellement vrai, c'est ici maintenant. Et si elle ne porte pas le même genre de vie, elle a fait quand même quand c'était dans la personne, Christ Jésus, elle ne, si elle ne le fait pas là, pas la même chose dans son église, alors c'est faux. Si, c'est, si elle ne porte pas la même chose, il doit agir de la même colonne de feu qui a conduit Israël. Et nous voyons cela. La parole de Dieu manifestée. Les boiteux marchent, les sourds parlent. Les aveugles voient, les morts sont ressuscités. Les pensées du cœur ne peuvent être cachées. C'est ce qu'on appelle les œuvres mêmes. Un homme, c'est le Messie. C'est le Messie, Dieu. Le Saint-Esprit, le même. C'est la l'Église pentecôte, au lieu de tenter de la critiquer, devait être en action partout. Avec humilité et amour. En essayant de la montrer à un peuple perdu et mourant. Nous devrions le respecter. Nous devrions l'aimer. Humiliez-vous. Faites-vous révérencier. Soyez en action comme des séraphins avec révérence et humilité. Confirmez clairement. Promis à nous dans les derniers jours. Et voilà, nous le voyons. Jésus l'a dit. A dit que cela arriverait ici, juste avant qu'il ne soit brûlé. Ce signe de sa venue prouve que cela est à la portée des mains maintenant. Cela pourrait venir à tout moment. Je ne vois rien pour empêcher l'enlèvement de l'Église en ce moment. Voilà, le marquage parce que... Voyez. Parole par parole. Mot par mot, c'est déjà accompli. Cela devrait nous mettre en action. Cet exemple, nous devrions amener chaque homme perdu au royaume de Dieu que nous pouvons, car un de ces jours, vous allez les amener, ça ne va pas faire mal. La porte sera fermée, il n'y aura plus. Ils peuvent être mentalement soulagés, titer, crier, sauter, réclamer. Mais quand la Vierge endormie vient acheter de l'huile, elle ne l'a jamais fait. Voyez-vous déjà? Quand le... Et vous voyez ces signes et ces autres, tout ce qui est juste pour sa venue. La septième veille, il vient. Certains s'endorment dans la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième. Et la septième veille, il y a un qui voici l'époux qui vient. Le septième âge de l'Église, c'est la montre, l'âge qu'il a. C'est l'âge de l'Église et du sort à la fin. Oh my, c'est pourquoi. Souvenez-vous, mais souvenez-vous, l'Église de Laodicée doit être fière. Parce qu'il a dit, parce que vous dites que vous êtes riche, que tu es pauvre, misérable. Vous ne savez pas qui vous êtes. Nu avec les misérables. Il dit que voilà, je vais vous. Nous voilà la fin de toutes choses, la fin de l'histoire, la fin de la civilisation. Vous pouvez le voir, regardez dans la rue. Je parlais au chauffeur de taxi qui me conduisait, il a dit, eh bien, la seule façon dont je peux le remarquer, c'est quand je vois un homme ici qui agit de manière saine, je sais que c'est un étranger. Maintenant, c'est l'un de vos chauffeurs de taxi qui l'a dit. Ce n'est pas seulement ici, mais c'est partout, la fin de toutes choses. Les hommes de toutes sortes de mauvaises choses, tout le monde. Le monde est perverti, regardez dans les rues. Regardez bien, partout, pas seulement en Amérique, mais partout. Pourquoi? C'est un Sodome moderne. Il n'y a rien qui va rester et qui ne sera pas brûlé. Dieu le fera, ses lois l'existent, cela doit être fait de cette façon. Quand une tige de maïs a poussé, elle doit être détruite. Quand une fleur a fait sa vie, vit sa vie, elle doit mourir. Et la civilisation a vécu son temps. L'âge de l'Église l'a vécu. Les dénominations l'ont vécu. C'est le temps de l'union. Il y a une organisation des Nations Unies. Une Église unie et un effort commun. Qu'en est-il ainsi? Christ et son épouse s'unissent. C'est ce qui c'est. Il y a toutes sortes. Il y a des sortes de l'ombre de tous les types. Tout va être uni dans un signe. Christ est sur le point de s'unir avec son épouse. Un souper. Voici, toutes choses sont des signes pour nous, partout. Nous devions être en action. Comme les prophètes d'autrefois, Isaïe, nous voyons à quoi en viennent les hommes qui se sont exaltés. Nous voyons ce que c'est. Ces organisations qui s'élèvent et disent, eh bien, parce que vous ne nous appartenez pas, vous ne faites pas partie, eh bien, disent, parce que vous ne... Qu'est-ce qu'ils perdent? Tous ceux qui ont foi... Qu'est-ce qu'ils ont? Tout comme ils ont... Il ne faut pas chercher un diplôme de doctorat. Il cherche des cœurs. Dieu ne cherche pas les cœurs des gens avec des diplômes. Il cherche quelqu'un qui le croira. Mais nous n'avons même pas les hommes et les avons éduqués à être des évêques. Nous avons besoin du baptême du Saint-Esprit pour prendre cette fonction. Nous avons besoin du baptême du Saint-Esprit pour prendre cette fonction. Le Saint-Esprit est notre tuteur. Il est celui qui se fait connaître parmi nous. Le signe de l'heure, les derniers jours. Mais nous, comme Ézéchias, exaltés, pensons simplement qu'ils peuvent prendre leur place. Regardez ce que les effets de la vision ont fait sur ce au prophète. Maintenant, il était un prophète. Il était une vase pour la parole de Dieu. Il a été choisi, né d'un prophète. Finalement, il a donné sa vie et a été scié en morceaux avec une scie. Mais nous découvrons que ce grand prophète, quand il a vécu cette vision du ciel, a vu l'ordre comme Dieu préparait ses hommes. Pourquoi cela a amené le prophète à avouer qu'il était un pécheur? Nous voulons être si grands pour être si grand pour une sorte de grand contourné avec Dieu. Nous ne pouvons pas être saints. La sainteté vient de Dieu. Ouais, certainement, ce n'est pas une église sainte, ce n'est pas une montagne sainte, mais c'est un Dieu saint. C'est vrai, pas des personnes saintes, mais un Dieu saint. C'est Dieu dans les personnes. Pierre a fait référence à la montagne de la transfiguration, la sainte montagne. Cela signifie que Dieu saint était sur la montagne. Regardez-les maintenant. Ouais, c'est un Dieu saint. La présence de Dieu, c'est qui la rendait sainte. C'est la présence de Dieu parmi nous maintenant qui apporte la sainteté. Pas ma sainteté, pas la vôtre, mais sa sainteté. Sa présence est si apportée, nous devons nous humilier, nous couvrir de respect, d'humilité, dire « Seigneur Jésus, reçois-moi dans ton royaume. » Sa sainteté par la nôtre, le Saint-Esprit. Le prophète a confessé cela, l'a poussé à dire « Je suis un homme aux lèvres impures, un prophète. » Dieu, nous avons besoin d'une autre vision comme celle-là. A vu ces puissants de purification de Dieu. Maintenant, observez maintenant comment Dieu a fait. Il a envoyé un de ses séraphins, a pris la pince et a pris un chardon ardent de l'autre côté, l'a mis dans ses mains et il est venu coucher la tête. Et il a dit, ton iniquité n'est plus. Puis Esaïe a appris une autre leçon. Je pourrais dire ceci. Peut-être très approprié, mais je crois que c'est. Avez-vous remarqué Dieu purifie ses prophètes par le feu, non par la théologie ou un livre quelconque. Il nettoie son peuple par le feu, le Saint-Esprit et le feu, pas par la déclaration des credo, des livres ou de quelque chose que vous pouvez apprendre, un tas de prières. Il les nettoie par le feu de l'autel. C'est comme ça qu'il les met en ordre. Oui, monsieur. Voilà comment il a nettoyé ses prophètes au début. Quand ces 20 étaient dans une chambre, le Saint-Esprit est tombé et les langues de feu se sont posées sur eux. Ils ont été nettoyés pour le service. C'est comme ça que Dieu nettoie, pas en apprenant, en obtenant un baccalauréat en art ou en philosophie, mais prendre le sein du feu du ciel, cela enlève le mensonge de vos lèvres et enlève le charnel de vous, consume ces choses, ces grâces du monde. Et met sa présence à l'intérieur et vit à travers ces personnes. Le Saint-Feu est ce qui... Esaïe a appris cela. Nous devons apprendre que Dieu ne nettoie pas par la connaissance, il nettoie par le feu. Vous voyez comment un prophète est mis en ordre. Il nettoie, enleva son iniquité. Puis après l'avoir fait, il a confessé, il s'est mis et il a dit, je suis un homme aux lèvres impures, quand il a vu la présence de Dieu. Êtes-vous avec moi? Qu'est-ce que nous savons maintenant? Nous sommes dans la présence de Dieu. C'est vrai. Nous sommes maintenant assis. Est-ce que nous ne pouvons pas le comprendre? Mais nous sommes maintenant dans la présence de Dieu. Nous voyons Dieu. Croyez-vous qu'il est ici? Maintenant, il est ici. Je suis votre frère. Mais il a dit, les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. N'est-ce pas qu'il a dit? Très bien. S'il est ici, son esprit est ici. C'est ce qui le compose. Si nous pouvons nous abandonner, enlever nos propres pensées comme ceci ne peut pas réfléchir, alors une autre voix peut parler en œuvre. C'est la manière. Si nous pouvons nous vider, c'est là que réside le secret. Débarrassez-vous de vous-même. Débarrassez-vous de votre propre pensée. Débarrassez-vous de votre propre pensée de faire. Puis laissez Dieu agir. S'il est Jésus-Christ, c'est le même hier, aujourd'hui, pour toujours. Croyez-vous-le maintenant? Voyez si c'est le cas. Regardez ce petit garçon ici, juste devant moi. Vous n'avez pas de cas de prière. Mais si Dieu me dit pourquoi vous êtes ici là, pour le croiriez-vous? C'est un problème spirituel. Vous êtes tous bouleversés. Vous ne savez pas ce qu'on fait. Si c'est le cas, levez la main. Très bien. C'est terminé. Prenez-la. Croyez-vous cela? Cette dame de couleur assise là-bas, le regardant, elle a des problèmes cardiaques. Croyez-vous que Dieu vous guérit? Que Dieu... Vous voyez? Croyez-vous qu'il aime cet homme? Croyez-vous que je suis son serviteur, son prophète? Je ne vous connais pas. Vous êtes un étranger pour moi. Vous avez une carte de prière ou quelque chose. Vous êtes juste un homme assis. D'accord? Vous avez un... C'est vrai, n'est-ce pas? Est-ce que vous croyez que je suis son prophète? Vous n'êtes pas d'ici. Vous venez du Connecticut. Vous êtes du Connecticut. Voulez-vous? Votre nom est Art. Anguisson. C'est exactement. Et c'est vrai. Il y a une femme assise juste derrière. Une femme de couleur. On dirait qu'elle a quelque chose comme un manteau jaune. Oui, c'est... Vous avez une carte de prière? Ouais, croyez-vous que je suis son serviteur? Croyez-vous que je suis son serviteur? Je suis totalement étranger. Nous sommes deux races de personnes. Mais vous êtes en prière. C'est vous. Croyez-vous que Dieu peut me guérir, me dire votre problème? Vous avez quelque chose. Vous êtes en train de prier. C'est un ami qui a des problèmes rénaux. C'est le cas. Très bien. Maintenant, vous pouvez... Je lance un défi à votre foi. Et qu'est-ce que c'est? Quand le prophète qu'il était dans la présence, il s'est humilié. Regardez. Il s'est d'abord humilié, puis le fait l'a nettoyé. Après que le fait l'a nettoyé, c'était un Esaïe purifié. Quand il a entendu la voix de Dieu, il a dit, qui ira pour moi? Il est entendu, mais voici, envoie-moi. Quand le charbon du feu toucha les prophètes, les rendant supplétés peut-être, quand la voix de Dieu a dit, qui ira pour nous? Il répondit, maître, mais voici, envoie-moi. Amen. Cet appel de l'Esaïe purifié, après que le Saint-Esprit l'ait nettoyé, il n'avait pas besoin d'expérience de séminaire. Il n'avait pas besoin d'aucune expérience de livre. Il avait été nettoyé par le feu de Dieu et appelé à l'action. Qu'est-ce que c'était? Quand il a vu Dieu en action, il est entré en action. Nous voyons Dieu en action. Il est temps que les dix se mettent en action et soient un exemple de ce que Dieu dit. Croyez-vous cela? Combien veulent confesser que tous leurs torts et tout le reste maintenant et dites, Dieu, purifie-moi. Quand le charbon du feu touche, levons-nous. Je vais m'arrêter ici. C'est fait tard. Croyez-vous de tout votre cœur maintenant. Je veux que vous incliniez la tête. Rappelez-vous qu'après qu'il ait vu Dieu, voilà que c'était en train d'arriver à ce nouveau. Arriver à nouveau. Maintenant, tout peut arriver. Tout peut arriver. Que le charbon du feu... Quand la voix de Dieu a dit qu'il ira pour nous, parle mon Seigneur. Parle, mon Seigneur. Parle. Et je te répondrai. Et voici. par Seigneur. Parle mon Seigneur. Je répondrai, Seigneur. Envoie-moi. Des milliers sont mourants dans le péché. Écoutez leurs cris tristes et amers. Hâte-toi, mon frère, de les secourir. Réponds vite. Ô maître, me voici. Parle, mon Seigneur. Parle, mon Seigneur. Parle, mon Seigneur. Je te répondrai, me voici. Parle, mon Seigneur. Parle, mon Seigneur. Parle et je répondrai, Seigneur, envoie-moi. Mettons nos mains sur notre cœur pendant que nous le fredonnons. Faites votre confession, dites, Seigneur, je suis un homme aux lèvres impures. Je suis une femme aux lèvres impures. Avons une véritable confession, nous aurons un véritable réveil. Soyons d'abord nettoyés. Regardez, le prophète a dû être nettoyé premièrement. Le fait l'a touché, alors il était en action. Seigneur, donne-moi un zèle dans mon cœur. Place quelque chose en moi que je n'ai pas, Seigneur. Mets ton amour en moi et ton feu en moi. Envoie-moi maintenant, faites votre confession. Croyez en Dieu de tout votre cœur. Parle, Seigneur. Parle, Seigneur. Parle et je te répondrai vite. Parle, Seigneur. Parle, mon Seigneur. Parle et je répondrai. Seigneur, envoie-moi. Rendant aussitôt pur que peut l'être. Quand la voix de Dieu a dit, et alors la réponse qui ira pour nous, et il répondit, Maître, envoie-moi. Parle, mon Seigneur. Voilà maintenant. Si Dieu parle à votre cœur maintenant, très humblement, gentiment, respectueusement, dans sa présence, pécheur, saint, c'est pour nous tous, c'est pour moi, c'est pour tous. Voici sa présence, il est ici, c'est ce qu'il a dit qu'il ferait, le signe qu'il a dit que nous allons aller là, pendant que la musique joue doucement, confessons simplement nos torts, je ne suis rien, de toute façon. Seigneur, parle à mon cœur, nettoie-moi. Seigneur, envoie le Saint-Esprit et nettoie-moi. Je sais que je suis dans votre présence. Je te vois comme Esaïe t'a vu se mouvoir. L'endroit est rempli par le fumée, pas de fumée, mais bien rempli de lumière, rempli de gloire. Seigneur, Créateur de ciel et de terre, comme cela est dans notre esprit, nous voyons ce qui arrive aux personnes exaltées. Ils étaient tous des exemples pour nous. Nous voyons ce que signifie l'humilité et la prière pour le sauver. Représente. Je prie, Père Céleste, à cet instant, pour cette assemblée, pour moi. Seigneur, prends de moi tout ce qui ne te ressemble pas. Enlève cela. Je veux que tu vives en moi, Seigneur. Je veux ton esprit avec le prééminent. Je veux que tu vives si complètement moi, que je ne sois plus moi-même, que je marche que je parle et que je vive en toi. Accorde-le, Seigneur. Mais voici, nettoie-moi, Seigneur. Nettoie cette église. Nettoie-nous tous ensemble. Prends la maladie, enlève la maladie. Enlève le péché. Enlève l'incrédulité, enlève le doute. Retire tout cela. Laisse le Saint-Esprit venir maintenant avec un charbon ardent de l'autel, une nouvelle étincelle de la Pentecôte. Et nettoie tout le cœur. Prends-nous, Seigneur. Nous t'appartenons. Nous croyons en toi. Accorde le Père. Parle, Seigneur. Parle et je répondrai. Oh, Seigneur, envoie-moi. Tous ceux qui veulent, qui vont le faire et qui ont consacré de nouveau leur vie à Christ, à l'instant, qui veulent se consacrer dans sa présence. Si je commence à dire ce que je veux, je prendrai tout le monde ici. Je crois maintenant, je connais. Vous savez, je ne tiendrai pas ici, je ne dirai pas cela en tant qu'autorité de Dieu. C'est tout simplement partout. Vous êtes dans une condition pour commencer une nouvelle Pentecôte. C'est certainement vrai, mes frères. Humiliez-vous, couvrez votre visage, couvrez vos pieds, approchez-vous de lui, prosternez-vous et faites votre confession. Voulez-vous le faire? Si vous le faites, levez simplement vos mains pendant que nous chantons.